lui-même. Et c'est vrai que ces temps derniers, on a vu des gens comme Jacques Attali saluer Marx, même écrire beaucoup sur Marx. Et on a vu quelqu'un comme Alain Minc se prétendre le dernier marxiste français à certains égards.
À certains égards.
Daniel Ben Saïd, comment expliquer ce retour de Marx ? Le spectre est de retour.
Oui, il y a une actualité éditoriale qui ne fait que concrétiser l'actualité de sa critique des sociétés contemporaines. C'est pour ça que ce retour, quand et comment, ça, personne n'aurait pu le prédire, mais en revanche... Il n'y avait pas tellement de doutes pendant les années de disgrâce, justement, parce que la couverture que vous venez de citer, c'est une...
Rebelle infatigable, esprit libre, vagabond nomade, si tu penses que mon écran, appelle-moi camarade.
Est-ce qu'on peut commencer par faire un peu un portrait du bonhomme Marx, qui est complètement inscrit dans le 19e siècle, hein. Il va être témoin des grandes charnières du 19e siècle européen. En Allemagne, France et Angleterre, mais il va être le penseur de la révolution industrielle, malgré tout.
Oui, alors bon, il y a une chose que je voudrais signaler quand même, parce qu'on est toujours un peu prisonnier des images, et on a toute l'iconographie du Marx barbu, imposant, et d'ailleurs comme il prenait les photos à l'époque, en pose, devant des tentures, etc. Ce qui brouille un peu l'idée que c'est d'abord lui et Engels, qui est beaucoup mieux qu'un comparse. Hein. J'aime bien un peu réhabiliter Engels, qui est un type beaucoup plus sympathique humainement d'ailleurs que Marx. Joyeux buveur, farceur, caricaturiste, etc. C'est des jeunes gens au cœur de la tourmente européenne d'une Europe en fusion dans les années 1840-48, etc. Et c'est d'abord des jeunes hommes révoltés et qui commencent à chercher les raisons de leur révolte et à trouver une expression rationnelle à leur révolte. Alors par ailleurs, effectivement, Marx est un peu celui qui a déchiffré les hiéroglyphes de la modernité, étant au cœur de Londres, au moment où se produit la première mondialisation et où le développement du télégraphe, de la navigation à vapeur, l'explosion du chemin de fer sont les équivalents pour les transports et les communications de notre révolution Internet, avions supersoniques. On a, pareil, la création du crédit, l'explosion du crédit et du phénomène bancaire. Hein, c'est l'époque où la bourse devient l'ébauche de ce qu'elle est aujourd'hui, avec les scandales financiers traité par Zola dans l'argent, etc. Mais que Marx est déjà témoin de l'écroulement du crédit immobilier sous le Second Empire. Donc, les phénomènes spéculatifs qui jouent derrière l'autonomie de l'argent, les scandales, l'agiotage, etc. Et puis, le début aussi de la grande consommation, pas de masse telle qu'on la connaît aujourd'hui avec Walmart et compagnie, mais c'est les débuts des grands magasins, les expos universels, c'est les vitrines de la marchandise, la transformation de la ville. Bon, on a toute une séquence, en gros, qu'on pourrait dire la première ou la deuxième, peu importe, mondialisation, qui préfigure, qui est une sorte de préface à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a deux époques qui entrent en résonance, qui dialoguent parfaitement. C'est pour ça que le monde dont parle Marx nous parle plus qu'on ne l'imagine. C'est pas la visite à une espèce de sanctuaire. Non, c'est une sorte de dialogue d'un siècle à l'autre, de deux siècles à l'autre.
Marx et Engels, puisque vous les rapprochez tout de suite, vont beaucoup parler des prolétaires, mais ils ne sont pas des prolétaires. Marx a pour père un avocat qui est d'une famille, vieille famille de rabbins, hein, c'est
oui,
ça
oui.
Qui se convertit pour pouvoir faire son boulot d'avocat. Oui. Il est obligé de se convertir au protestantisme. Quant à Engels, c'est un fils d'une bonne famille, de négociants de Manchester. Voilà, c'est pas des prolos au départ, ni l'un ni l'autre.
Non, ils font partie de cette génération intellectuelle qui ont espéré, dans leur bouillante jeunesse, que l'Allemagne connaîtrait les transformations consécutives à la Révolution française et qui se trouvent devant une époque, au contraire, de régression, de fermeture, de restauration, et qui sont déçus par la couardise, surtout, ou l'inconsistance de la bourgeoisie allemande, qui est une mosaïque de petits États, dont la Prusse est le principal à l'époque. L'Allemagne n'est pas unifiée, il faut quand même le rappeler. Donc, c'est des jeunes révoltés qui sont déçus par le fait que la bourgeoisie allemande est incapable d'entreprendre ce qu'ont fait les Jacobins en France, etc., et qui, du coup, cherche ailleurs des forces motrices, des forces porteuses pour transformer cette société.